Avez-vous réussi à mettre la main sur votre passe pour le Festival d'été de Québec 2024? On connaît maintenant la belle programmation de l'édition de cet été. Du 4 au 14 juillet encore, une job incroyable de l'équipe de la programmation. Et on accueille en studio Louis Bellavance, qui est directeur de la programmation du FEC. Louis, comment tu vas?
Très bien, merci. Vous autres?
Ça va super bien. Ça va bien. La neige commence à finir là, par endroit. On va avoir un printemps et éventuellement un été. Et on aura le Festival d'été de Québec. Presque 24 heures depuis la mise en vente des passes et la présentation de la programmation. Comment tu te sens?
On se sent bien. On se sent... c'est toujours un gros... c'est un accouchement pour l'équipe de la programmation d'arriver avec ça. On manque toujours de recul pour voir à quel point... faut que j'arrête mes cloches dans mon laptop. Voilà. On manque de recul pour voir si ça va fonctionner. On doute toujours un peu. On sait que, statistiquement, on sait qu'il y a de la force là-dedans, mais on compare ça à des choses qu'on a essayées, qui n'ont pas marché. La face collée dessus. Puis là, à un moment donné, dans les vraiment derniers milles, parce qu'on book des choses jusqu'à hier matin, on confirme les affaires.
De la présentation de la programmation.
À 8h30 hier matin, on confirmait une tête d'affiche pour l'Auto-Québec. C'est ça. On manque vraiment de recul. Et là, on arrive là, on lance ça. On prend un peu de mesure de ce que c'est. On partage avec le monde. On voit les faces du monde. On dit « Oh, OK, on est correct. Ça va bien aller. » Et là, on s'en va en vente, puis bang.
Mais ça te stresse-tu fait encore? Ça fait longtemps. Ça te stresse-tu? Stress, c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce que ça te joue avec les émotions un peu, la présentation?
Oui. Tu sais, l'année passée, c'était tellement fort. Tu sors de là, tu te dis « Ouais, je serais peut-être dû prendre ma retraite rendu là.
» Avec la coupe Stanley dans les mains.
Comment tu fais pour aller plus loin ou rester là, c'est difficile. C'est une vraie pression. Puis là, tu sais, on entend les commentaires. Bon, c'est toujours la même affaire, le festival, on n'est pas capable d'avoir des billets. Tant peu, là. C'est arrivé l'année passée, puis cette année.
Oui, c'est vrai.
L'année d'avant, ça avait pris 3 semaines, puis on n'en revenait pas. Avant ça, d'être complet, il y a eu le 50e, il y a eu 2012, puis c'est pas mal ça. Moi, j'ai vécu bien plus souvent le contraire. J'ai vécu de faire des tournées de promo, puis de retourner, puis d'en faire plus, parce qu'on est short de 20 000 billets pour atteindre nos objectifs. Puis c'était bon aussi les autres fois, c'est même vrai. Quand on vendait pas. On n'a pas fait des plates bien souvent. Là.
C'est vrai.
Là, il y a quelque chose. Il y a une lune de miel, il y a un buzz, c'est l'engouement. On a monté la barre dans la production, dans toutes sortes d'affaires, dans le contenu, évidemment. On a monté ce bar-là. Et là, tout le monde embarque, puis on surfe là-dessus. C'est le fun. On prend pas ça pour acquis. C'est des séquences qui s'arrêtent, ça, à un moment donné. Tu peux pas, un scoreur de hockey fait un but par match pendant 6, 8, 9, puis là, à un moment donné, OK, ça suffit, il ne se rendra pas à 14. On est prudent avec ça quand même. Puis évidemment, cette année, peut-être qu'on aurait vendu sur le buzz de l'année passée, mais tu fais pas ça l'année d'après. Coachella vend pas bien cette année. Les festivals, en général, dans le monde, vendent moins bien cette année. Il y a des exceptions. Il y a 3 festivals, à ma connaissance, qui ont sorti en fou. Il y a nous autres, Glastonbury en Angleterre, puis Paléo en Suisse, puis c'est tout. Fait qu'on ne peut pas se dire « Ah, c'est magique, c'est facile. » Fait que oui, on a cette pression-là. Mais le monde de Québec sont spéciales. Ils aiment cet événement-là, puis on va continuer à monter à bord.
Puis évidemment, on va surtout parler de musique, mais je pense qu'on n'a quand même pas le choix d'aborder la situation du 11h à la place de midi, callé un peu à la dernière minute. Est-ce que... Là, c'est le call qui a été fait, ça a été fait. Les raisons pourquoi on le fait, on parle de l'engouement. Il y en a qui trouvent que ça fait pas beaucoup de sens. On se demande s'il n'y a pas d'autres raisons en regard de tout ça qu'on connaît pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on regarde cette décision-là puis on se dit, ouais, on l'a échappé de mettre la vente à 11h à la place de midi, alors que les gens, il y en a qui étaient au travail puis qui étaient prêts à, mettons, 11h55, aller se mettre dans le fil, puis que là, ils arrivent à 11h55. Puis tu te mets dans le fil, t'es 200 millième. Comment on voit la situation aujourd'hui avec un peu de recul?
Si on met ça en perspective, premièrement, c'est pas nouveau. On a fait ça l'année passée exactement de la même façon. Et on l'a fait dans le passé aussi quand il y a de la surchauffe sur le système. Que les salles d'attente soient ouvertes une heure ou deux avant, c'est normal. Tout le monde fait ça. Les gens vont se parquer là. Et là, on attribue déjà... Quand les gens qui étaient là très tôt, ils se font attribuer un ordre aléatoire pour pouvoir faire une transaction au moment où ça va ouvrir, okay. qu'il soit midi ou 11h ou 13h. Ceux qui sont arrivés à 10h le matin, qui sont allés dans la liste d'attente, leurs chances sont meilleures que ceux qui arrivent à midi pile. Il y a déjà fait 2 heures qu'il y a du monde ouais. là qui attendent et qui se sont vus attribuer un rang aléatoire, qu'ils soient arrivés les premiers ou une heure après. Et quand il y a de la surchauffe dans cette salle d'attente-là, et là, on voit arriver le midi en question, on se dit, OK, il va falloir enlever de la pression sur le réseau. Hier matin, comme l'année passée, mais hier, c'était bien pire, il y avait 200 000 personnes dans la salle d'attente à 10h30. Et là, on se dit, ça ne fonctionnera pas. On va faire crasher le réseau à midi. Il y a des risques au niveau informatique aussi. Et on va enlever un peu de cette pression-là parce que c'est un boyau d'arrosage qui est en train de gonfler gros de même puis qui va exploser. Et là, on l'ouvre au compte-gouttes. On n'ouvre pas ça at large puis on dit « vends tous les billets à ce monde-là avant qu'on ouvre ». C'est au compte-gouttes. On enlève la pression sur le réseau. On met le boyau à soak puis ça, ouais. ça dégoûte un peu. Puis là, on dit « oh, OK, on se donne une chance ».
Mais si tu n'étais pas là avant 11h, tu n'avais pas de billets, par exemple.
T'ouvre. Il y a du monde qui sont arrivés à midi qui ont eu des billets aussi. Puis il y a du monde mais qui était là avant et qui n'en avait pas
mais
eu.
Mais il était placé à la fin de la file d'attente pourtant?
C'est aléatoire. Tu peux arriver plus tard puis tu reçois un ordre random. Si okay. tu t'étais, si vous quatre, vous trois, vous installez à midi, vous rentrez en là-dedans, puis vous, en même temps, toi, tu vas être 150 000, toi, tu vas être 300. C'est aléatoire.
Je pense
c'est
que c'est
un système de loterie.
Je pense que l'incompréhension des gens, puis du moins, c'est ma vision, je pensais que si tu arrivais après 11 heures, tu tombais officiellement à la fin de la ligne comme on avait déjà ouvert. Je pense qu'il y a peut-être là l'incompréhension ouais, qui crée la grogne.
C'est pas le cas, puis il y a du monde qui sont arrivés à midi puis qui ont eu des billets, puis il y a du monde qui est arrivé avant puis qui n'en ont pas eu.
Ouais.
C'est le problème, je ne cherchais pas plus loin, on n'est pas au prix du marché. Ça ne fonctionne pas. C'est un problème d'offre et de demande. Mm-hmm. On vend un 150$ un produit qui vaut 750.
Absolument.
C'est sûr qu'il y a du monde. Y en a trop. Si n'importe quel commerce décide de changer son prix, je parlais avec Martin tantôt de station-service. Si la station-service à côté ici décide qu'elle vend son essence à 50 cents, il va avoir un sacré line-up. Puis à un moment donné, il n'y en aura plus d'essence dans le réservoir. Puis il va y avoir de l'insatisfaction, mais c'est parce que ça ne vaut pas 50 cents, ça vaut une pièce et 25. C'est la même affaire avec nous autres. Ce produit-là est accessible à un niveau qui n'a aucun sens, sauf qu'on peut le faire. Puis c'est dans nos intentions, dans notre constitution de garder cet événement-là accessible. C'est important, c'est inscrit dans nos valeurs. Il faut qu'on le fasse.
C'est le meilleur deal côté spectacle, sa planète, ben oui. Ça, c'est sûr. J'ai eu une petite théorie. J'ai lancé ça hier en ondes. Puis dis-moi donc si c'est faisable ou pas, si on pouvait faire ce stunt-là. Peut-être c'est zéro puis une barre, cette théorie-là. Mais je me disais, certaines personnes vont chialer que parce que c'est par Internet, bon, c'est plus notre produit local, tu sais, Québec. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur. Puis ça, c'est bon, on veut le tourisme. Est-ce que ça serait faisable, Louis, de faire un genre de stunt qu'il y a 50 000 billets que physiquement, les gens de Québec, faut qu'ils... Puis moi, je trouvais ça cool parce que tu envoyais les belles files de dans le temps, que le monde physiquement se déplace avec leur chaise de camping, puis un journal, puis une petite bière ou quelque chose. Ça, c'est-tu faisable ou pas pantoute de faire un genre de concept?
Je pense que oui, je pense que c'est faisable. Je pense que ça se fait même numériquement, sans revenir à une opération physique, mais tu peux protéger, géolocaliser. Je pense que ça se peut. Puis la question d'ouvrir une heure avant pour soulager l'informatique, il doit y avoir d'autres solutions à ça. Là, on sent que ça fait de la grogne. Mais tu sais, ça fait qu'on l'ouvre à midi ou il y avait 200 000 personnes à 10 heures là-dedans. Si on avait fait attendre ce monde-là jusqu'à midi, on aurait eu la même pression. Puis tu aurais le même nombre de monde qui n'aurait pas de billets en ce moment. Qui serait insatisfait. On ne peut pas faire apparaître des billets. Mm-hmm. On ne peut pas augmenter la quantité parce que là, tu crées un autre problème quand tu achètes. Ceux qui ont réussi à en avoir, je pense qu'ils ont le goût d'être capables de rentrer sur le terrain. On ne peut pas en vendre plus.
Ouais.
C'est limité. Mais c'est sûr qu'il y a une équipe de travail qui se met là-dessus, qu'il y a du monde. Moi, je ne suis même pas retourné au bureau encore.
Ouais.
Mais c'est certain qu'il y a un paquet de monde qui réfléchit.
Moi, j'aime le stunt de voir physiquement du monde. Moi, c'est juste le stunt. Ouais. J'aime la belle vieille façon de voir gang de Québec en file parce que l'engouement est là. C'est juste le physique de la chose. C'est tout. Ouais.
Tu veux faire une émission de radio là-bas?
Oh, moi, je veux être live. Moi, je veux que Rage Against le matin soit live de la file pour cette pré-vente-là.
Louis, on a parlé justement du fait que le prix est très bas, donc ça amène énormément de monde. Puis là, il y a des gens par texto qui nous disent « Hey, on pourrait mettre la limite de billets à deux. » J'imagine que c'est une chose que vous pouvez regarder. regarder. Mais,
imaginez le niveau d'insatisfaction aujourd'hui si toutes les familles de Québec avaient réussi à en avoir deux au lieu de quatre. Ça serait la folie. On est le seul festival, à ma connaissance, qui limite à quatre déjà. Il n'y a personne qui fait ça. Le monde, le monde a de la misère à vendre le billet. Je veux dire, en tout cas,
tu ne peux pas mettre une limite là-dessus. Si,
si tu en veux 16, prends-en 16. Nous autres, on se limite à quatre. Puis on fait déjà de l'insatisfaction avec ça. Imagine à deux, imagine à un. La folie, la pression sur les serveurs aussi, comment ça pourrait exploser. Tu doubles le nombre de transactions.
Oui, c'est vrai. Est-ce que tu évalues avec le prix qui est bas? Tu dis, bon, ça nous crée une folie, justement, de rareté. Mais est-ce que le fait aussi que vous ayez, puis je reviens à la programmation, que vous ayez une programmation hyper variée? Tu sais, le fan de rap est correct, le fan de new country, le fan de pop, le fan de rock. Ça fait-tu en sorte que, paf, c'est ça qui crée cet engouement-là comparativement à d'autres festivals qui sont plus uniques dans un style de musique?
C'est sûr que ça fait partie de notre ADN d'avoir cette variété-là. Oui, de plaire au plus de gens possible, combiné à l'accessibilité. Ça veut dire que s'il y a un de ces produits-là qui t'intéresse, tu es un acheteur potentiel parce que de toute façon, le prix, c'est le prix d'un de ces concerts-là. Tu ne trouveras pas des billets à 150$ pour aller voir Post Malone nulle part sur la terre. Mm. Là, nous autres, il y a 200 shows gratuits avec qui viennent. C'est du 200 pour un.
Ouais.
C'est sûr que ça met une pression, cette variété-là. Puis on aime ça, on aime l'idée, on laisse partager le laisser-passer aussi pour que, justement, toi, tu l'as acheté pour ce soir-là, mais tu vas le passer à quelqu'un qui va revenir le lendemain. Et tout ça contribue à ce modèle-là qui est vraiment bizarre. Je veux dire, c'est unique. Je n'ai jamais trouvé nulle part ailleurs où on fait une espèce de groupe d'achat où tout le monde est conscient qu'il paye pas cher pour se mettre ensemble à plus de monde que la capacité du terrain pour garder le prix bas et pour avoir des foules très importantes. Les gros shows, ils sont pleins peut-être, mais c'est les artistes qui normalement joueraient devant 12 000 ou 14 000 personnes, ce qui est un aréna plein et qui est formidable.
Oui.
Là, ils se ramassent à jouer devant 40 000 personnes. Et là, la magie du festival. C'est cette formule-là. C'est un équilibre imparfait, mais qui crée quelque chose d'incroyable. Puis c'est pour ça qu'un gars comme Post Malone, qui n'est pas disponible cette année puis qui dit « je vais faire 3-4 shows dans mon été », il choisit de venir faire un seul show au Canada puis de venir ici parce qu'on a cette formule incroyable-là qui fonctionne bien malgré tout. Il faut le rappeler, ça marche cette affaire-là. Le terrain est plein, le monde a du fun. On a un site où on a un niveau d'écoute qui est bien différent des autres festivals aussi. Nous autres, tu viens voir un show au Festival d'été, tu vas voir le show. Là. C'est pas, t'entends pas 8 bands en même temps qui jouent un peu partout puis du monde qui se déplace, qui passe en avant de toi, qui rentre puis qui sort tout le temps. Tu viens voir un show au Festival d'été, le monde trip, musique, ils s'installent en avant, ils écoutent, ils regardent, ils vivent ça. On est différent de beaucoup, beaucoup de festivals, de la vaste majorité. Puis peut-être nous autres qui avons la bonne formule.
Ouais, ben, je pense que oui.
Tu fais que les ventes, oui.
Voir Post Malone cet été, show unique comme ça, coûterait pas mal plus que 150$. Tu as mentionné Post Malone, peut-être en terminant, Louis, terme de programmation. Ton grand coup de cœur ou un coup de cœur que tu as eu dans toute cette démarche-là, puis tu es bien, bien fier d'avoir sur le poster?
Bien, post, c'est sûr, pas parce que, mettons, j'aime ça ou j'aime pas ça. Moi, ça, il y a des affaires que j'aime, mais c'est un travail aussi qu'on fait. On essaie d'être sérieux là-dedans, puis d'aller dans toutes les directions. Mais lui, parce que pas disponible, c'est sa fête le 4 juillet, travaille jamais dans cette période-là. C'est des années et des années de travail pour arriver à mettre la main sur ce gars-là qu'il n'y a pas un festival en Amérique du Nord qui n'aurait pas pris sous son affiche. C'est satisfaisant, mais après ça, la sous-carte cette année est vraiment formidable. Les gens vont découvrir ça dans les prochaines semaines ou rendus à l'été, mais les bands juste avant, Motley Crue, c'est Seater qui est là avant, c'est pas un band à 150$, c'est solide. C'est des artistes qui seraient une tête d'affiche de festival dans bien d'autres événements. Carly Rae Jepsen qui va jouer avant les Jonas Brothers. Jesse Murphy qui est avant Post Malone. Jesse Murphy, c'est peut-être une prochaine Billie Eilish. C'est incroyable le buzz qu'il y a là-dessus. En ce moment, on n'est peut-être pas là. On s'en reparle une couple de mois. Jesse Murphy, comment ça se passe? Un gars qui s'appelle Charlie on a Friday, que peut-être personne connaît. Allez voir ce qui se passe sur TikTok avec lui. Ça se passe maintenant. On est hyper à l'avant-garde là-dessus. Il va être avant Ava Max sur la scène Sirius. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça, de ces petits bands-là qui sont cachés. Un gars qui s'appelle Charlie Crockett, qui va jouer avant Zac Brown Band en country, qui fait une affaire un peu plus roots, plus près de Johnny Cash puis Hank Williams que du new country. Mais c'est bon, c'est formidable. Il y en a partout, saupoudrés dans la prog. La série à Place Douville qu'on a ajoutée cette année, c'est 33 bandes émergents qui ne seraient pas là. Il n'y a pas de place souvent pour ces bandes-là pour qu'ils se retrouvent sur notre line-up. Il y a du stock là-dedans. Tout est bon. C'est vraiment incroyable. C'est tous des coups de cœur de nous autres, des choses qu'on a vues à gauche, à droite, des bandes qu'on a vues à South by Southwest, à Toronto, en Europe. Et là, on amène ces groupes-là. Écoute, va falloir descendre la côte.
Les flous sur l'affiche, c'est-tu des annulations de dernière minute? C'est-tu qu'on n'a pas réussi? OK, c'est des annulations.
C'est des choses qu'on prenait pour acquis puis qu'on a gardé à la place puis que dans les derniers jours, à un moment donné, deux soirées à l'Auto-Québec qui sont devenues, là, on a dit, garde, on n'a pas le temps de les remplacer, on a pris un pas de recul, on a laissé ça là, on va aller faire une sieste, puis après ça, on va se mettre là-dessus.
Louis Bellavance, hey, félicitations à toi et toute ton équipe. Bravo pour la belle programmation encore une fois. C'est vrai que la barre était très, très haute l'année dernière, mais encore une fois, du gros solide pour le Festival d'été de Québec. Et tout ça va commencer sur les plaines avec la formation canadienne Nickelback, qu'on écoute en musique, la plus récente, Skinny Little Missy. Merci, Louis.
Merci à vous autres.